Vous écoutez RLFI, il est 13h à Paris, 11h en temps universel. Et c'est l'heure de RFI Midi avec tout de suite le journal d'Anne Gantler. Bonjour Anne.
Bonjour Laurence, bonjour à toutes et à tous. C'est RFI Midi qui commence 2h30 de reportage et d'analyse pour faire le tour de l'actualité dans le monde avec à la une ce mardi 8 octobre. La guerre au Liban, Israël annonce intensifier son offensive au sol. Des troupes supplémentaires ont été déployées dans le sud du pays. Le Hezbollah, lui, dit soutenir les efforts de la classe politique pour obtenir un cessez-le-feu, mais a tiré des roquettes sur la ville israélienne d'Haïfa. Les Libanais, eux, sont toujours très nombreux à tenter de fuir. Les étrangers installés dans le pays aussi, et c'est particulièrement difficile pour les employés de maison. Écoutez un homme qui a accompagné la jeune femme travaillant chez lui.
Je l'ai amené ici à l'ambassade car nous allons partir nous aussi. Je ne peux pas l'abandonner sur la route. Avec la guerre, certains n'ont pas le choix, mais depuis toutes ces années, elle fait partie de la famille. C'est mieux comme ça.
Ce type de soutien est rare, les départs très compliqués. Nous appellerons nos envoyés spéciaux et nos correspondants tout au long de RFI Midi. Nous recevrons aussi dans un peu plus d'une heure Gebran Bassil, chef du courant patriotique libre, un parti chrétien allié du Hezbollah. Nous parlerons également d'Haïti qui a depuis hier un nouveau président de transition, Leslie Voltaire. Il a pris ses fonctions officiellement hier et il a lancé un appel.
Nous ne sommes pas satisfaits parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore rétabli la sécurité pour la population. Il nous faut éviter la confusion. Nous devons oublier nos intérêts personnels afin de prioriser l'intérêt national.
Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition en Haïti. On en parlera à partir de 13h, temps universel, et nous appellerons aussi notre correspondant à Washington pour faire le point sur la campagne électorale aux États-Unis. Nous reviendrons aussi sur la motion de censure contre le gouvernement en France qui serait étudiée aujourd'hui par l'Assemblée nationale. C'est la première contre Michel Barnier, mais la dernière d'une longue série. À quoi ça sert? Élément de réponse dans quelques minutes. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. Et on commence comme chaque jour par le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à tous.
Et le Proche-Orient, un an après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.
Avec parmi les derniers développements, le Hezbollah qui a tiré des roquettes sur des sites militaires israéliens, ainsi que sur la ville de Haïfa, dans le nord de l'État hébreu. Israël affirme qu'environ 85 projectiles, pas moins, ont été tirés. De son côté, l'armée israélienne a lancé hier soir des opérations en Cisjordanie occupée, des incursions qui, d'après les témoignages, se poursuivent. Suivent à l'heure qu'il est. Théo Renaudon, bonjour.
Bonjour.
L'autorité palestinienne déclare qu'elles ont coûté la vie d'un sexagénaire et d'un enfant de 12 ans.
Oui, des véhicules blindés, des forces israéliennes qui circulent dans des rues désertes. Voilà les scènes observées et filmées dans plusieurs villes de Cisjordanie hier lundi. 30 Palestiniens ont été arrêtés lors de ces opérations, selon une agence de presse locale. Des arrestations en majorité concentrées dans la province d'Hébron, tout au sud du territoire occupé. L'autorité palestinienne fait état du décès de deux Palestiniens, vous l'avez dit, un père qui voulait empêcher les forces israéliennes d'arrêter son fils et un enfant touché par des tirs dans le camp de Kalandia. Des images de bâtiments détruits semblent témoigner aussi d'autres arrestations violentes dans les villes de Jenin et Tulkarem. On apprend ce matin de journalistes palestiniens que des raids israéliens sont toujours en cours dans plusieurs villes. Ce mardi, la nuit dernière, les militaires israéliens auraient été visés par le djihad islamique lors de leurs opérations. L'armée israélienne n'a pour le moment pas communiqué.
Théo Renaudon, merci pour ces précisions. Au Liban maintenant, l'armée israélienne annonce avoir lancé de nouvelles opérations terrestres. Son offensive contre le Hezbollah s'est élargie au sud-ouest du Liban. Elle a aussi frappé dans la nuit la banlieue sud de Beyrouth et cette armée israélienne a annoncé avoir tué un chef du Hezbollah, Hussein Husseini, un homme qui était chargé du budget et de la logistique du groupe chiite. Dans ce contexte, l'inquiétude est grande chez les travailleurs étrangers au Liban, les employés domestiques. Mais pas seulement. On évalue au total leur nombre à environ 250 000, des personnes originaires de pays d'Asie et d'Afrique. Reportage à Beyrouth de nos envoyés spéciaux Abla Jounaidi et Jad El-Khoury.
Hades, tout près de la banlieue sud de Beyrouth. L'odeur de la fumée des frappes de la veille emplit l'air au consulat éthiopien. La foule se presse pour remplir les dernières formalités du départ. Un vol de rapatriement vers Addis Abeba est prévu demain. Mathieu, franco-libanais, est venu pour son employé de maison.
Il n'y avait pas de vol. pour son pays. Et je suis venu là, je les ai appelés, ils ont pris le nom et on a un avion demain matin, je crois.
Non loin de là, Bitania a le sourire aux lèvres.
Je rentre en Éthiopie. Je voyage demain. J'ai rassemblé toutes mes affaires hier. Je vais enfin voir ma famille.
Contrairement à d'autres, elle a pu compter sur la famille libanaise qui l'employait.
Je l'ai amené ici à l'ambassade car nous allons partir nous aussi. Je ne peux pas l'abandonner sur la route. Avec la guerre, certains n'ont pas le choix. Mais depuis toutes ces années, elle fait partie de la famille. C'est mieux comme ça.
Mais le soutien des travailleurs migrants au Liban est l'exception plutôt que la règle. Des milliers ne peuvent compter ni sur l'État libanais, ni sur leur ambassade en ces heures sombres. Abla Junaidi, Jad El Khoury, Beyrouth, RFI.
Et dans ce contexte, le Nigeria s'apprête à évacuer ses ressortissants du Liban. Ils sont environ 2000. La Turquie, elle aussi, a prévu d'évacuer les siens. Ce sera demain par voie maritime.
La Chine met en place des mesures de rétorsion dans le dossier des surtaxes.
Oui, les autorités chinoises ont ouvert la voie ce matin à des surtaxes considérables sur les spiritueux venus d'Europe, en particulier sur les eaux de vie, connues sous le nom générique de brandy, le fameux cognac français en fait partie. Pour rappel, les 27 États membres de l'Union européenne ont approuvé vendredi dernier l'imposition de surtaxes à l'importation de véhicules électriques chinois. Pierre Benazé, bonjour, vous êtes en direct de Bruxelles.
Bonjour.
Bruxelles, qui espère encore parvenir à une solution négociée, mais cette annonce chinoise, Pierre, amenuise les chances d'un accord. Pékin choisit plutôt le bras de fer.
Effectivement, parce que depuis l'annonce européenne début juillet de droits de douane provisoires sur les véhicules électriques chinois, les importateurs doivent déposer en douane une caution égale au montant de la surtaxe prévue par l'UE. Ces cautions seront ponctionnées de manière rétroactive si les droits entrent effectivement en vigueur. La Chine avait immédiatement planifié des mesures de rétorsion en ouvrant des enquêtes sur les cognacs, le porc et les laitages. L'annonce chinoise de ce mardi impose donc des mesures miroirs, une caution à déposer en douane à l'importation de cognac à hauteur de 35% environ, un niveau comparable aux surtaxes européennes sur les voitures électriques. On perçoit chez les Européens une dose de pessimisme quant à la volonté chinoise de négocier. Certains s'attendent ici à deux prochaines annonces similaires sur le porc et les laitages. Officiellement, la Commission espère toujours résoudre avec Pékin le dumping commercial qui résulte des subventions accordées aux constructeurs chinois de véhicules électriques. Mais l'annonce chinoise de ce mardi augure plutôt d'une guerre commerciale avec l'entrée en vigueur pour 5 ans des surtaxes européennes au 31 octobre.
Merci Pierre Benazé et j'ajoute qu'à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, les professionnels de la filière cognac appellent à mettre fin à l'escalade. En France, le gouvernement Barnier, visé par une première motion de censure déposée par la gauche pour le non-respect du résultat des élections législatives, elle sera présentée et débattue cet après-midi à l'Assemblée avec peu de chances d'être adoptée. Dossier complet après ce journal. En ce qui concerne la demande de destitution d'Emmanuel Macron, la procédure est enterrée. La proposition engagée à l'Assemblée par la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, ne sera pas examinée dans l'hémicycle. Une décision prise ce matin par la conférence des présidents met fin à la procédure.
Toujours en France, une réunion au ministère de l'Intérieur ce matin.
Oui, le ministre a réuni la vingtaine de préfets les plus concernés par les procédures d'éloignement du territoire. Bruno Retailleau a fait des expulsions de migrants en situation irrégulière l'axe principal de sa politique migratoire. Amélie Boucourt, bonjour.
Bonjour.
Les préfets peuvent-ils faire plus, Amélie, et quels sont leurs rôles dans les expulsions?
Dans la majorité des cas, Gilles, c'est à la préfecture de prononcer, de notifier et d'exécuter les mesures d'éloignement. On entend souvent parler de l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire, mais ça n'est pas la seule procédure prévue. En attendant son expulsion, c'est aussi à la préfecture de décider si la personne reste libre de ses mouvements ou si elle doit être placée en rétention. Le préfet n'a en revanche pas tous les pouvoirs. Si un ressortissant n'a pas de document de voyage, il lui faut un laissez-passer, et ça c'est au consulat du pays d'origine de décider de l'émettre ou non. Ensuite, l'expulsion peut être annulée par le pouvoir judiciaire s'il estime qu'elle n'est pas légale. Le juge peut également enjoindre la préfecture à réexaminer une situation et à dicter un titre de séjour à quelqu'un qui avait reçu une mesure d'éloignement. Reste ensuite évidemment à respecter les décisions de justice, chose qui n'est pas toujours faite selon l'association La Cimade qui constate fréquemment les irrégularités de l'administration française. Depuis janvier 2024, c'est la loi Asile et Immigration qui établit qui peut être expulsé expulsés et comment. Bruno Retailleau peut, lui, à moins d'une nouvelle loi, seulement donner des consignes au préfet via des circulaires pour demander une application stricte du texte.
Explication signée Amélie Beaucourt. Merci Amélie. Le prix Nobel de physique revient cette année à deux chercheurs, l'américain John Hopfield et le britanno-canadien Geoffrey Hinton. Ils sont récompensés pour leurs travaux sur les réseaux de neurones artificiels et l'apprentissage automatique, des avancées considérables dans le domaine de l'intelligence artificielle. Enfin, résultat de tennis. Au troisième tour du tournoi de Shanghai, le français Gaël Monfils, 46e mondial, a battu son compatriote Hugo Humbert, 15e mondial. En huitième de finale, le vétéran de 38 ans affrontera l'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial. Bonne journée sur RFI, tout de suite en compagnie d'Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Nous parlons de l'actualité en France durant les 20 prochaines minutes. Et d'abord, on va parler de politique.
RFI, la France à midi.
Le Premier ministre Michel Barnier fait face cet après-midi à sa première motion de censure. Ce ne sera pas la dernière. Le Premier ministre et son gouvernement vont devoir se défendre face aux arguments avancés par le bloc de gauche, le Nouveau Front Populaire. Illégitimité politique, promesse d'austérité budgétaire. Bonjour Aurélien Devernois.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Cette motion, elle a très peu de chances d'atteindre les 289 voix nécessaires pour qu'elle soit adoptée. Dans ce contexte, pourquoi la déposer ?
Alors, c'est en effet la question. Et elle a été posée ce matin par nos confrères de France Télévisions à Olivier Faure, le député et patron du PS, va être celui qui va présenter cette motion de censure cet après-midi.
Il y a évidemment un suspense assez mince. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'abord de rappeler les conditions dans lesquelles Michel Barnier a été nommé. Il n'est représentant ni du Front Populaire, ni du Front Républicain auquel il n'a même pas participé. Et puis, ce sera aussi une façon de dire qui est dans l'opposition et qui ne l'est pas.
Voilà, on comprend qu'il y a surtout du symbolique dans cette démarche. Dénoncer ce qui est considéré comme un coup de force d'Emmanuel Macron, la nomination improbable d'un Premier ministre Les Républicains, 46 députés seulement, je vous le rappelle, et forcer les autres groupes d'opposition à montrer leur jeu.
Et en particulier le Rassemblement National.
Oui, puisque Marine Le Pen a d'ores et déjà annoncé que son parti ne vote et pas la censure pour ne pas, dit-elle, ajouter du désordre au chaos actuel. Même chose, on l'a appris ce matin pour ses alliés de l'Union des droites pour la République, d'Éric Ciotti. Et cela va permettre au NFP de se positionner comme seule réelle alternative. Écoutez ce qu'a dit par exemple le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, ce matin sur RMC.
Il y a un certain nombre de formations politiques qui avaient posé des lignes rouges. J'ai entendu Monsieur Ciotti, j'ai entendu Madame Le Pen. Notre ligne rouge, c'est qu'il faut que les mesures qui soient annoncées par Monsieur Barnier ne frappent pas les classes moyennes et les classes populaires. Depuis que ces lignes rouges ont été énoncées, Monsieur Barnier a indiqué qu'il allait prendre 150 euros en moyenne à tous les retraités de ce pays, que les tarifs de l'électricité vont augmenter.
Est-ce qu'il y a d'autres lignes de force derrière cette motion de censure, Aurélien ?
Alors, il y en a une et pas des moindres. Au sein de la coalition gouvernementale, le plan budgétaire de Michel Barnier ne suscite pas du tout l'enthousiasme au sein d'Ensemble pour la République, le groupe du parti présidentiel. Même s'il n'y a aucune chance que les députés EPR votent la censure, le Premier ministre est tout de même venu faire de la calinothérapie avec eux ce matin à l'Assemblée. Des courriers et des coups de fil ont aussi été adressés par Matignon à des députés mécontents, comme celui loyaliste de Nouvelle-Calédonie, Nicolas Metzdorf. Car même si la motion échoue, pas question d'afficher un soutien dispersé au gouvernement qui n'a déjà qu'une majorité très relative.
Et puis il y a aussi des enjeux internes à gauche.
En effet, depuis un mois, il y avait une concurrence au sein du NFP entre la motion de censure portée par le PS et la procédure de destitution d'Emmanuel Macron défendue par LFI. Or, les insoumis ont subi un revers ce matin. La proposition de résolution qui avait été rejetée en commission la semaine passée, eh bien, elle n'ira pas au débat dans l'hémicycle. C'est ce qui a été décidé par les présidents des groupes parlementaires. Une petite victoire pour le PS qui estimait depuis le début que cette destitution n'était pas le bon combat et qu'il fallait plutôt travailler sur la censure du gouvernement. Sauf qu'au final, eh bien, ni la destitution ni la censure a priori n'iront au bout, en tout cas pour l'instant.
Merci Aurélien Devernois. L'actualité en France, c'est aussi la démission fracassante du directeur de la prison de l'île de Mayotte. Il dit vouloir ainsi attirer l'attention sur les conditions de travail et sur la surpopulation. Avec nous pour en parler, le secrétaire général régional du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA Justice. Bonjour Alexandre Vissouvanadin.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez de cette démission ?
Donc ouais, bah, cette démission, donc ça a été quand même assez un choc hein, au niveau de la profession, au niveau de l'établissement. Les collègues n'ont pas vu venir hein, cette décision, mais elle a été révélatrice d'un mal-être et d'un gros malaise dans la prison Magique à Vaux. Donc les agents, suite à la mutinerie, avaient quand même exercé un droit de retrait qui est interdit hein, dans notre statut hein, de surveillant pénitentiaire, mais quand même exercé 3 jours de retrait. Et là, maintenant, on a la démission du directeur, c'est que le signal, il est fort.
Oui, c'est ça, vous nous avez parlé de la mutinerie. Donc, on va rappeler que c'était il y a une dizaine de jours, le 28 septembre, une mutinerie et une prise d'otage. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Comment est-ce qu'on a pu en arriver à une telle situation?
Tout à fait. Donc, c'est que derrière, on a un établissement très vieillissant. On a des conditions de détention exécrables. Vous avez des cellules prévues pour un voire 2 détenus. Maintenant, ils sont assis dedans. On a 260% de taux de surpopulation pénale. Donc, l'un dans l'autre, plus de télé. Au moment, quand vous avez un établissement équipé pour servir des plateaux repas pour 278 détenus, c'est pas fait pour 700 détenus, par exemple. Donc, voilà, tout ça, c'était à bout de souffle. L'établissement est très vieillissant, invite à s'accélérer. Et là, voilà, tous ces éléments, tous ces facteurs ajoutés arrivent à l'embrasement et à la mutinerie. Donc c'était un ras-le-bol de tout, en fait.
Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Donc pour les prisonniers, vous nous l'avez décrit, des conditions de détention qui sont extrêmement difficiles. Aujourd'hui, il y a 650 détenus pour 278 places. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour le personnel de la prison au quotidien?
Donc, tout de suite, la surpopulation, ça crée tout de suite des tensions. Quand le matin, le surveillant doit ouvrir la porte de cellule, que par exemple, la nuit, c'est mal passé, il y a une mésentente entre les détenus. Tout de suite, les détenus vont rejeter leur mal-être et leur violence sur le personnel en uniforme. Donc, tout ça, ça crée de la tension. Après, il faut savoir que Mayotte, là, il y a un gros phénomène de bandes rivales, de bandes entre villages. Et à partir du moment où l'établissement est surpeuplé, on ne peut plus séparer les gens. On appelle ça des interdictions de communiquer. Donc, tout de suite, on arrive tout de suite avec des affrontements, on ne peut plus les séparer. Et malheureusement, le personnel, tous les jours, doit braver un peu et un peu esquiver tous ces dommages collatéraux. Mais malheureusement, il sera pris dedans. Je pense que voilà, comme une prise d'otage et tout, on n'a toujours pas hein, la réelle motivation de cette mutinerie. Les revendications n'étaient pas claires. Mais voilà, on sait que de toute façon, c'était en sommeil depuis un moment, alors qu'on a toujours averti. C'est une vraie cocotte minute. On le voyait venir et tout le monde ferme les yeux, malheureusement, sur la situation du centre pénitentiaire de Magique à Vaux.
Est-ce que vous avez des informations sur la personne qui pourrait remplacer le directeur de la prison qui a démissionné et à quelle échéance?
Alors non, là actuellement, c'est on a une déléguée territoriale hein, qui chapeaute un peu les prisons de La Réunion et de Mayotte. Donc je l'ai eu au téléphone ce matin, c'est elle qui pour l'instant fait l'intérim. Dans l'attente, bon, le poste il est ouvert hein, à une mobilité et d'avoir un candidat pour reprendre l'établissement. Donc quoi qu'il arrive, il y a une intérim qui est assurée.
Et après la mutinerie dont vous nous avez parlé, puisqu'on parle des décisions qui sont prises, le ministère de la Justice avait envoyé 11 agents en renfort. Est-ce que ça a permis de soulager un peu le personnel de la prison?
Non, pas forcément, parce que ça n'a pas abaissé le taux de surpopulation pénale. C'est-à-dire que demain, ça va être peut-être éphémère, donc c'est la crainte. Donc c'est toujours agréable, on va dire, entre guillemets, d'avoir un renfort pour avoir des mesures sécuritaires plus affûtées hein, vis-à-vis de l'ouverture des cellules, d'être à plusieurs. Hein, c'est vraiment pour renverser aussi le rapport de force. Mais ça va durer combien de temps? En fait, le problème, c'est la projection d'avenir pour les surveillants du centre pénitentiaire de Magique à Vaux. Et je pense que même le directeur qui a démissionné, il a très bien dit dans son interview, en disant c'est le signal fort, on a besoin d'un autre établissement. Et lui-même, il le dit quand même, c'est quand même une personne, une autorité hiérarchique, qu'on n'a aucune lueur d'espoir, on n'a pas de terrain, on n'a rien. Donc voilà.
C'est ce que j'allais vous demander.
Il n'y a rien de concret.
Il est prévu ce nouvel établissement, vous n'avez aucune information sur l'avancée du projet?
Non, il y a rien. Alors moi, j'ai encore siégé il y a pas longtemps sur une réunion. On dit qu'il y avait 2 terrains proposés, sauf que les 2 terrains ne répondent pas aux normes, ils sont inondables ou ceci, cela. Mais on sent pas vraiment une réelle volonté d'aller vite aussi sur ce projet. Il faut avancer. Donc je pense qu'il y a des mesures à prendre. La préfecture, l'État doit s'en emparer. Au moment, je sais pas, il y a peut-être des terrains à réquisitionner parce que vous savez très bien une prison, tout le monde en veut une. Par contre, si je prends des mairies, personne ne veut donner de terrain parce que c'est ça aussi le problème, hein, c'est le problème du foncier. Donc actuellement, ça tourne un peu en rond. Pendant ce temps, on flirte avec le drame et dans beaucoup de prisons d'outre-mer. Hein. Ça serait pareil en Guyane, on attend, on est toujours dans l'attente.
Alors là, vous nous parlez de la surpopulation en disant que c'est vraiment le problème central. Un certain nombre de prisonniers ont été évacués, notamment vers l'île de La Réunion. Est-ce que ça améliore un tout petit peu la situation? Est-ce que ça ouvre une perspective?
Non, en fait, c'est là où il y a gros problème. Moi, j'avais commencé à écrire depuis bien longtemps sur ce qui se passait, hein, parce qu'on a vu les chiffres monter de jour en jour. Fallait mettre un mot dessus, fallait poser une analyse et rester pragmatique. Le problème, c'est que voilà, on a réussi à en transférer 30 sur l'île de la Réunion. On crée quand même une surpopulation pénale aussi qui grandit sur la Réunion. Et à côté de ça, vous en transférez 30 dans la journée, vous en avez 30 qui vont rentrer en détention. Parce que le problème, il va plus loin que ça, c'est que Mayotte est dépourvue un peu de méthode, on va dire, de mesures alternatives à l'incarcération. On peut pas déployer du bracelet électronique parce qu'il n'y a pas de cadavre. On a souvent des détenus clandestins, mais pour les garder sous la coupe de la justice, c'est l'incarcération, elle est automatique. Donc tout de suite, il y a plein de facteurs qui font que cette surpopulation, elle est incontrôlable. À part ouvrir des établissements, on peut pas faire grand-chose, au niveau pénitentiaire du moins.
Merci beaucoup Alexandre Vissouvanadin d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la région Réunion-Mayotte pour le syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA-Justice. Merci.
RFI, la France à midi.
Direction maintenant Marseille, la calanque de Cortiou, polluée par les industries voisines, notamment par une station d'épuration. Pour compenser les effets de cette pollution et la dégradation des fonds marins, des récifs artificiels avaient été installés il y a 7 ans et ça marche. Beaucoup de poissons sont revenus. Succès donc, à première vue, car certains scientifiques s'interrogent tout de même sur la pertinence du dispositif. Justine Rodier.
Dans les couloirs de l'agence de l'eau à Marseille, on se réjouit, les poissons sont revenus.
Bonjour, vous voulez vous asseoir ?
Annick Mièvre, la directrice régionale, nous reçoit dans son bureau. Les résultats montrent que la vie sous-marine a repris à Cortiou. Les espèces se sont installées sur les 36 récifs artificiels immergés dans la calanque.
Les résultats sont quand même très encourageants aujourd'hui. On constate plus de 160 espèces qui sont quand même présentes.
Elle rappelle l'objectif du projet RexCore, né en 2017.
C'était de voir si on pouvait refaire revenir la vie marine qui avait été dégradée historiquement par des rejets très polluants.
Car au 19e siècle, toutes les eaux sales de Marseille étaient rejetées à Cortiou. Depuis 1987, une station d'épuration traite les eaux usées, toujours déversées dans la calanque, mais moins polluantes. D'où l'idée d'immerger ces hôtels à poissons entre 10 à 15 mètres de profondeur comme un coup de pouce pour le retour de la vie marine. Direction maintenant l'Institut méditerranéen d'océanologie.
Voilà, bienvenue au MIO.
Sandrine Ruiton est chercheuse, elle plonge chaque saison pour observer les récifs et nous fait part de ses analyses.
On va étudier la colonisation par les macro-organismes, c'est-à-dire par exemple les oursins, les crustacés, les éponges. Et on suit également la colonisation par les poissons. Il y a des choses sur les récifs, mais la biomasse ne veut pas forcément dire qualité écologique. Quand on a des espèces qui prolifèrent, c'est pas forcément un bon signe. Dire que c'est un succès, c'est un bien grand mot.
À Cortiou, les eaux rejetées répondent maintenant aux normes environnementales, mais Sandrine Ruiton s'interroge sur la pertinence de faire revenir la vie dans un tel endroit.
Attention, ça reste quand même de l'eau relativement sale. Et également, il s'agit d'eau douce. Donc on va avoir une modification locale de la salinité de l'eau, ce qui entraîne aussi des modifications de l'environnement à cet endroit. D'une manière générale, quand on fait de la restauration, la première condition à remplir, c'est de stopper la pression responsable de la dégradation de l'écosystème. Donc dans ce cas-là, la source de dégradation n'est pas stoppée.
D'autant que lors d'épisodes orageux, la station d'épuration est à saturation et il faut ouvrir les vannes. Tout part dans la mer sans avoir été traité.
Faut encore faire des efforts, c'est certain.
Le projet a coûté 1 400 000 euros. Selon l'agence de l'eau, il pourrait être étendu à d'autres sites dégradés par des rejets de pollution. Justine Rodier, Marseille, RFI.
Notre rencontre avec une personnalité du monde de la culture. Aujourd'hui, la réalisatrice espagnole Isabel Coixet. Elle adapte au cinéma un roman dans son nouveau film « Un amor ». Au cœur de l'histoire, il y a une jeune traductrice espagnole engagée aux côtés de migrants qu'elle aide dans leurs démarches administratives jusqu'au jour où elle décide de fuir le stress pour s'installer dans un petit village reculé. Et là, elle découvre que tout le monde l'observe et la surveille. Isabel Coixet est l'invitée d'Elisabeth Le Quéré.
Tu es Andreas, non ?
Isabel Coixet, bonjour.
Bonjour.
Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo.
Ce film est parti d'un choc artistique, celui que vous avez ressenti en lisant Un Amor, Un Amour de Sarah Messa. Qu'est-ce qui vous a attiré à ce point dans le personnage de Nat ?
Pour moi, c'est la vulnérabilité, non ? Parce que quand tu es vulnérable et tu sens que les gens ne t'acceptent pas et tu changes chose de toi-même pour être accepté, ça c'est horrible.
Natalia, c'est une jeune femme qui arrive dans un village pour fuir le stress de la ville. Et dans ce village, le piège va se refermer. Elle va rencontrer une autre forme de stress. Mmh. Est-ce que vous pouvez dire à quoi il tient ?
Elle n'a pas de l'argent, donc elle s'en bat dans un petit village, dans une petite maison pourrie, parce que c'est aussi la maison qu'elle peut payer. Au début, tout va bien, mais à un moment, quand les choses commencent à se couler, que tous les sourires et les visages qui l'accueillent commencent à changer.
Parce que c'est un village, en fait, un tout petit village où tout le monde se surveille. Et on sait très bien ce que font les uns et les autres. Et elle n'a pas l'habitude de ça. Et elle ne s'en rend pas compte tout de suite.
Non, parce qu'elle a l'habitude de vivre dans une grande ville, mais dans un petit village, tout est surveillé. Les gens savent. Et ça, c'est une chose qu'elle ne s'attendait pas. De la même manière qu'elle ne s'attendait pas à la proposition de cet homme.
Cet homme que tout le village appelle l'Allemand.
Oui, c'est quelqu'un qui appartient pas au village. Mais la différence, c'est que Nat, elle a envie d'être acceptée. La force de l'Allemand, il s'en fout.
No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte. Es un riesgo que corro.
Isabelle Coixet, sans raconter le film, ce qu'on peut dire en fait, c'est que Nat, c'est quelqu'un qui a un travail assez mal payé, mais aussi un travail difficile.
On la voit en train de traduire des témoins très forts sur des histoires vraies qui sont passées à Burkina Faso, des gens qui ont arrivé dans l'Europe pour avoir le statut de réfugiés. Et j'ai parlé avec beaucoup des femmes qui font, et des hommes qui font ces métiers. Et c'est très stressant parce que la manière que tu traduis ces témoins peut décider si on accepte ces personnes pour être accueillies en France, en Espagne ou en Italie ou pas. Et il y a un moment qu'elle ne peut pas continuer de porter ses poids de l'histoire de cette femme qu'on voit à l'écran.
L'Espagne, on le sait, elle est en pole position sur les questions féministes par rapport à d'autres pays d'Europe. Dans votre film, vous montrez un pays qui est beaucoup plus contrasté.
Mais mon film montre une partie de l'Espagne, une partie... En même temps, c'est universel, non ? Je crois que tous les pulsions, tous les moteurs des sévices sont des... On a montré le film en Australie, il y avait des gens qui disaient « Ah oui, c'est exactement comme mon village !» En même temps... qu'il y a un féminisme qui marine un peu tous les niveaux de la politique, même l'éco et tout, l'écologie. Et on sent qu'il y a des batailles qui ne sont pas gagnées.
Isabelle Coixet, merci beaucoup.
Merci à vous.
Isabelle Coixet, invitée d'Elisabeth Le Quéré. Vous restez avec nous sur RFI. On se retrouve dans quelques instants pour l'actualité en Europe. À tout de suite.
Vous m'en direz des nouvelles. Musique, cinéma, littérature, exposition, bande dessinée, spectacle vivant, photographie, gastronomie. Du lundi au vendredi, Culture et Découverte s'invitent en France et dans le monde pour exciter nos cinq sens et partager le bonheur des trémus.
Vous m'en direz des nouvelles. Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU et à tout moment sur RFI.fr ou sur votre application de podcast préférée.
RFI, la sélection du mois.
Ça sort en équipe, en équipe, en équipe, équipe de malade.
Soprano avec Vakra.
Ça frappe de l'équipe, de l'équipe, de l'équipe, équipe de malade. Ça traîne en bolide, en bolide, en bolide, une caisse de malade.
Rema.
Para
avec Gaël Faye.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.
Révélation, art contemporain du Bénin. Une exposition à la Conciergerie de Paris du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025 qui réunit une quarantaine d'artistes et plus d'une centaine d'œuvres. Cette nouvelle exposition, au cœur du Palais Royal de la Cité, nous invite à découvrir la tradition et l'histoire du Bénin. Une exposition du Centre des Monuments Nationaux. Plus d'informations sur monuments-nationaux.fr. En partenariat avec France Média Monde.